Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM, disponible sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je reçois Olivier Michel. Il est venu nous parler de l'association La Ligne, ainsi que d'une exposition sur le thème de la trace, de l'outil numérique et du code créatif. Comment vas-tu, Olivier ?
Très bien, merci.
Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire un peu ton parcours, s'il te plaît ?
Oui, je m'appelle Olivier Michel, comme tu l'as dit. Je suis donc artiste plasticien. Et puis, dans le cadre de mon travail artistique, je me suis intéressé depuis quelques années à cette particularité du code, ce qu'on appelle le code créatif, c'est-à-dire ces dessins qui sont générés par une programmation et qui permet d'obtenir des dessins faits par l'ordinateur. Et donc, avec des copains sur Amiens, on a créé une association qui s'intitule La Ligne, et puis cette association donc regroupe différents artistes et professeurs qui sont donc enseignants sur Amiens. Donc on retrouve Mathieu Allard qui travaille à l'ESAD en parallèle, on retrouve Romain Astouric qui lui intervient régulièrement aussi dans des workshops sur différentes écoles nationales, et puis il a notamment beaucoup travaillé avec Vers la Tour. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose.
Vaguement, oui.
Voilà, un artiste musical qui travaille avec beaucoup de choses numériques. Et donc, Romain, lui, a travaillé plus l'aspect technique des choses et a permis de mettre en place les programmations liées aux concerts interactifs. On retrouve Marc Webster, qui est aussi professeur à l'ESAD et qui est, entre guillemets, je le nomme comme ça, monsieur processing en France. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup participé au développement de cette plateforme qui est processing et qui permet donc de faire de la programmation par code numérique. Et puis du coup, on retrouve après Benoît Vimard, qui est un graphiste et puis qui est professeur aussi à l'ESAD, et moi-même, donc du coup, voilà, qui suis professeur, moi, au Centre d'art du Safran, juste à côté, voilà.
Et du coup, elle a été créée quand, cette association ?
Alors, cette association est toute neuve. On l'a créée l'année dernière. Et puis, du coup, on a eu la volonté, par cette association, de se dire qu'on aimerait mettre justement en avant un petit peu le code créatif et puis toutes ces possibilités. Et puis, c'est une volonté aussi d'amener des outils pédagogiques pour, permettre au plus grand nombre de s'initier à ça et puis vulgariser le code créatif et permettre à chacun de se saisir de ça comme outil de création. Voilà, c'est une manière de faire du dessin autrement que uniquement avec un crayon. C'est une manière de produire des œuvres qui sont du coup visibles. Donc les 5 artistes que j'ai nommés tout à l'heure sont visibles en ce moment à la Maison de l'Architecture sur une exposition qui s'intitule...
J'allais te le demander justement. Comment elle s'appelle cette fameuse exposition ?
Cette expo s'intitule Trace Undefinited. Donc c'est jusqu'au 25 mai l'expo. Et puis donc c'est à la Maison de l'Architecture d'Amiens. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu où se situe la Maison de l'Architecture.
Elle
est derrière la Maison de la Culture. Oui. Et donc on a été accueillis là pour un temps pour rendre compte de l'ensemble des travaux des uns et des autres. Et puis on accueille une œuvre du FRAC Picardie en parallèle, qui est une œuvre de François Morellet, qui est un artiste grosse pointure nationale qui est décédé maintenant, mais qui travaillé sur des protocoles au niveau du dessin. Il n'a jamais utilisé l'informatique pour produire ses dessins, mais déjà dans sa manière de penser son œuvre, il y avait cette idée de programmation, entre guillemets, dans son travail. Et donc, c'était un petit clin d'œil qui nous semblait intéressant pour rentrer dans l'exposition et puis permettre de découvrir le travail des uns et des autres.
Le 3 avril, du coup, il y a eu le premier vernissage de cette exposition. Comment ça s'est passé ?
Eh ben, du coup, vernissage, il y a eu pas mal de monde. On était contents. Du coup, ça s'est... En parallèle au vernissage, on a fait une conférence à l'ESAD. Et puis, il y a eu un petit concert le soir. Ça a été aussi l'occasion de cette exposition de montrer, de mettre en place un projet spécifique aussi qui s'appelle Long Distance Drawing, qui a cette volonté de demander à des artistes ailleurs dans le monde de produire un code, de générer un code qu'ils nous envoient par Internet et que nous traçons, puisque tous les codes permettent de dessiner. Mmh. Et donc, du coup, on les trace avec une machine qui permet de mettre un crayon et de suivre le dessin que les artistes ont conçu par le code. Et puis, donc, il y a là une trentaine actuellement d'œuvres qui sont visibles dans l'exposition de cet événement. Et puis, l'idée de Long Distance Drawing, c'est aussi d'être sur un work in progress avec cette idée que potentiellement, on va pouvoir réactiver solliciter d'autres artistes à travers le monde et petit à petit constituer comme ça un fonds qui va grandir d'année en année avec des œuvres qui ont une contrainte d'être un format A3, noir et blanc, et puis évidemment codé derrière avec une forme qui serait dématérialisé, mais que nous, l'association, matérialisons du coup en traçant ces dessins et en permettant comme ça d'ouvrir le champ à des artistes. Il y a un Australien par exemple qui nous a répondu. C'est à travers tout le monde, la communauté, du code créatif est très très dynamique. C'était une manière aussi de renvoyer un petit clin d'œil comme ça à travers le monde.
C'est intéressant de passer du numérique à la toile comme ça.
Tu parles de toile, c'est plus de dessin.
De dessin,
ça. Et du coup, c'est vrai que l'intérêt de tout ça, c'est qu'on est face à des œuvres qui ne sont pas dématérialisées.
Oui.
Ce ne sont pas des œuvres sur écran. Mm. Ce sont vraiment des œuvres sur papier qui subissent le traitement de cette machine qu'on appelle une axidro.
D'accord.
Donc, c'est une machine qui travaille sur deux axes XY et qui permet de retracer comme ça avec un crayon, avec un feutre, avec des couleurs, différentes propositions. Ce qui est assez intéressant du coup dans l'exposition aussi, c'est de voir la diversité des propositions qui peuvent être faites.
Donc une exposition qui a lieu donc jusqu'au 25 mai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces fameux thèmes quand même, avec les outils du coup que vous employez, la trace, l'outil numérique, le code créatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours de l'exposition ? Comment s'est passée la création, en fait ?
Tout est issu d'un code qui est généré par l'ordinateur. Mais ce code, ce qu'il faut comprendre, c'est que les images, si elles sont générées par un code, ce sont quand même des humains qui, derrière, ont réalisé ces codes.
Oui, c'est pour
ça. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, dans l'imaginaire du grand public, on en oublie qu'il y a un auteur derrière. Et là, du coup, c'était une manière de remettre le travail artistique au cœur de l'objet. Au fin de compte, ça ne reste qu'un outil. Un outil qui est actuel puisque c'est un outil numérique avec toute la capacité de l'ordinateur et la puissance de l'ordinateur, mais en définitive la particularité de nous cinq là dans l'association, c'est que on a besoin de revenir justement à une œuvre papier à un moment donné.
Ouais.
Et donc on ne peut pas se satisfaire uniquement d'une chose qui serait faite sur l'ordinateur. Et puis l'intérêt pour nous n'est pas d'aller vers quelque chose qui pourrait être aussi imprimé simplement avec une imprimante laser ou je ne sais quoi. C'est vraiment à un moment donné utiliser cette Axidro que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette machine qui a cette particularité de pouvoir supporter un crayon et donc de revenir à quelque chose de tangible, de physique, de ce qu'est le dessin. En définitif, dans son approche du dessin, du coup, là, qui s'ouvre sur cet univers du numérique. Par exemple, Marc Webster, dans l'exposition, ben lui, il utilise le code génératif pour faire ses images. Et puis, il grave des plaques des plaques de cuivre. Et puis, il fait des tirages de gravures. Donc, il revient, vous voyez, à quelque chose qui est très, manuel, quelque part. Quoi.
Originel,
voilà.
Même,
oui,
je dirais.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est comment, à un moment donné, le numérique vient se mélanger dans tout ça. Et puis, une fois de plus, n'est qu'un outil en soi. Avec sa particularité, mais c'est pas une fin en soi. Quoi.
Voilà, ouais. On n'est pas dans l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Au contraire, c'est un mélange.
Ouais, alors après, c'est pareil, l'intelligence artificielle, puisque tu évoques ça, l'intelligence artificielle en soi, elle n'est rien s'il n'y a pas des hommes derrière qui pensent l'intelligence artificielle et qui nourrissent l'intelligence artificielle. Et la façon dont tu vas nourrir l'intelligence artificielle va faire qu'elle va produire elle-même des choses. Spécifique. Oui. Et donc, quoi, une fois de plus, moi j'aime remettre au cœur de tout ça qu'il y a un auteur derrière, il y a une personne qui a une volonté intellectuelle de se dire je veux faire ça avec l'ordinateur. Et l'ordinateur par lui-même, en un claquement de doigts, il ne fera rien si on lui demande de ne rien faire. Il a besoin d'ordre pour pouvoir s'exécuter, entre guillemets. Et donc, le codage créatif est une manière de donner des ordres à la machine. Oui. Mais le choix de ce qu'on lui demande de faire reste quand même personnel pour chaque auteur.
Et justement, donc, vous voudriez aussi partager ça à la fin de l'exposition, le 25 mai. Vous voudriez faire
voilà,
un atelier.
Voilà, c'est ça. L'exposition donc, se clôture le 25 mai à la Maison de l'Architecture. Et puis, du coup, on finit par un atelier qui permettra de familiariser les différents participants qui voudront bien participer à cet atelier, au code créatif du coup, puis l'opportunité donnée de s'initier comme ça à cette pratique du dessin avec des compétences en programmation. Mais alors, pas de peur à avoir, même si on n'a aucune compétence.
On peut venir quand même participer à l'atelier.
On peut venir découvrir ça et puis vous verrez vite que vous pourrez, très vite aboutir à des choses qui peuvent être... en tout cas, nous, l'idée, c'est de vous ouvrir un champ des possibles. Et celui-là, il existe au même titre que, un crayon sur du papier. Et donc, du coup, on va être là pour vous accompagner et puis essayer de vous faire mordre à l'hameçon pour que potentiellement...
ça nous plaise.
Ça vous plaise. Et puis que ça permet aussi de mieux comprendre les œuvres, il me semble aussi, parce que c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué de comprendre comment une œuvre, comment une programmation en définitif, et qu'est-ce que c'est qu'une programmation déjà ?
Comment ça a été créé ?
Voilà, et comment les choses... se génère parce que du coup ce qui est intéressant là-dedans c'est une fois de plus l'outil dans la diversité qu'il permet et dans justement il génère hein, l'ordinateur on va pouvoir lui donner dans le codage qu'on lui fait des conditions et des modes opératoires qui font qu'à chaque fois que je vais relancer l'ordinateur il va me faire par rapport à des normes ou des manières de penser le dessin, des propositions différentes.
D'accord.
C'est-à-dire que lui, il ne va pas être figé dans ses propositions.
Ok.
Quoi, voilà.
Et quels sont les prochains projets à venir pour l'association La Ligne alors ?
Eh ben, du coup, nous, nos prochains projets à venir, on a déjà une programmation l'année prochaine d'une exposition au Nymphéa à Camon.
D'accord.
En partenariat avec le collège qui permettra de faire une sensibilisation auprès des jeunes du collège. Donc voilà, avec la volonté de monter des ateliers, comme je vous disais, c'est-à-dire que cette partie pédagogique pour nous est très importante. On développe entre deux comme ça des outils aussi qui nous permettent de faire cette pédagogie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de développer ces outils, c'est à terme de pouvoir les expérimenter, évidemment, avec des publics pour pouvoir potentiellement rectifier si les choses qu'on a pensées sont trop complexes ou trop... voilà, donc ça, c'est vraiment une volonté aussi, à un moment donné, d'essayer au maximum de s'ouvrir sur l'associatif, l'école, voilà, tous ceux qui seraient prêts à se dire on a besoin d'une compétence. Ben nous, on est là pour amener cette compétence et vous faire découvrir et vous initier de façon diverse et variée. Tout est possible. Après, tout est imaginable là-dedans. Et puis, j'allais dire, long distance drawing, il y a la volonté, comme vous l'avez compris, que ça puisse perdurer et puis que potentiellement cette collection se gonfle avec le temps et puis...
on ne s'arrête pas là.
Voilà, on ne s'arrête pas là. Et puis j'espère que du coup vous entendrez parler de la ligne dans un avenir proche et puis plus on sera identifié, plus nous-mêmes on pourra proposer et faire des choses, mais en tout cas voilà. De toute façon, nous, on a une page Instagram, donc vous pouvez déjà nous suivre sur Instagram avec @ligne.page. Donc, vous retrouvez toutes les informations des expos, vous retrouvez tous les artistes du coup qui exposent dans le cadre de Long Distance Drawing. On a aussi un petit site internet, laligne.page aussi. Et puis, pour nous contacter, c'est simple, c'est hello@ligne.page et puis n'hésitez pas pour toute proposition ou toute volonté on reste une fois de plus proche de vous pour penser et voir comment on peut avancer ensemble.
Merci à toi Olivier de nous avoir présenté cette belle association.
Merci à vous pour l'accueil et puis au plaisir.
Vous venez d'écouter Olivier Michel, artiste de l'association La Ligne, qui est venu donc nous présenter son association ainsi que leur première exposition qui se passe actuellement à la Maison de l'Architecture à Amiens jusqu'au 25 mai. Tout de suite, je vous propose d'écouter le 4e épisode de votre série sportive Paris des Jeux Écolo, réalisée par Cerise, étudiante en master de journalisme à l'UPJV.
Nous sommes le 2 août. C'est la 4e journée des Jeux Olympiques de Paris 2024. La fête bat son plein à l'Arena Porte de la Chapelle, un tout nouveau pôle culturel au nord de la capitale française. Enrobé d'une façade d'aluminium recyclable, ce bâtiment est végétalisé sur 80% de ses surfaces. De quoi apporter une atmosphère bien fraîche en ce temps estival. Vous faites partie des 6700 spectateurs qui assistent au deuxième jour de l'épreuve de badminton. L'aréna Porte de la Chapelle est un lieu qui vous impressionne, mais à observer les autres spectateurs autour de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous remémorer cette banderole dont la photographie a circulé sur Internet.
Camille Lacour.
C'est le dernier feu d'artifice pour l'équipe de France. Attention, record d'Europe peut-être à l'arrivée. La victoire.
Paris, des Jeux écolo. Épisode 4, les manifestations. Cette fameuse banderole disait « pas de papier, pas de JO » et elle était brandie par des manifestants devant le chantier de l'Arena Porte de la Chapelle, en grève à partir d'octobre 2023. Vous aviez lu en diagonale cet article publié en décembre qui parlait des travailleurs sans papier employés sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris. Ils dénonçaient des jours de travail impayés. Une enquête pour travail dissimulé a été ouverte. Ce n'est pas la seule mobilisation survenue au sujet des Jeux Olympiques de Paris 2024. le 15 septembre 2023, l'association Le Revers de la Médaille se rendait sur les marches du Sacré-Cœur pour dénoncer ce qu'ils appellent le nettoyage social de la ville avant la compétition. Les manifestants s'inquiétaient, et s'inquiètent sûrement toujours, des lieux de vie occupés par des migrants, des sans-abri ou encore des travailleuses du sexe qui sont progressivement vidées par les autorités en vue des Jeux, écrit Libération. Le 10 janvier, d'après l'Humanité, près de 300 policiers et agents du ministère de l'Intérieur ont manifesté à Paris. Le journal poursuit. Ces manifestants dénoncent l'interdiction de prise de congé durant l'été et l'absence de primes en contrepartie des efforts consentis. Il ne s'agit là que de quelques exemples. La question environnementale est un sujet à débat, oui. Mais il semblerait que les protestations surviennent pour des raisons multiples, témoignage d'un événement sportif qui suscite beaucoup d'inquiétudes qui ne révèlent pas que de l'écologie. Et pourtant, en octobre 2023, des manifestations ont eu lieu pour des motifs environnementaux, à Tahiti. Des habitants ont manifesté pour dénoncer la construction d'une nouvelle tour de juge dans le lagon pour l'épreuve de surf. Cette nouvelle tour en aluminium détruirait des coraux lors de sa construction. C'est d'ailleurs déjà arrivé lors d'essais techniques réalisés le 1er décembre. Malgré cela, la World Surf League et donc la construction de cette nouvelle tour seront maintenues à l'été prochain. Y aura-t-il des protestations pendant les Jeux? Peut-être même après? J'ai posé les questions à Sven Daniel Wolf, géographe urbain et politique à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne.
Il y aura des protestations, mais protestations énormes, je m'en doute. Il y a des groupes avec des gens tellement intelligents, avec l'énergie, qui veulent améliorer des problèmes. Et je suis content pour ça, je crois que les protestes sont nécessaires. Sinon, ce serait seulement un projet autoritaire, et c'est pas bon. Alors, c'est grâce à ces protestations, je crois, dans le passé, que les autorités olympiques ont commencé ces réformes. Je crois que c'est vraiment nécessaire d'avoir les protestations. Mais en fait, la population française, la majorité, supporte ou ignore les Jeux olympiques. Parce qu'on doit rappeler que ces Jeux ramènent beaucoup de joie à la population. Et c'est pas possible, c'est pas honnête d'oublier qu'il y a milliards de gens partout qui adorent ces Jeux, qui n'ont pas un point de vue critique. Alors, et au même temps, c'est un peu paradoxal, mais au même temps, quand ces Jeux apportent plusieurs destructions, alors c'est un peu problématique d'adorer ces choses destructives, mais ça c'est le paradoxe des méga événements.
Vous venez d'écouter notre 4e épisode de la série sportive Paris des Jeux écolos. Cette émission se termine en musique. Je vous propose de nous quitter avec le morceau Black Sand de Glass Beams.